cours d'éthique chrétienne, le 19 avril 85, Rimont.
La double fidélité exigée dans le mariage l'est du point de vue philosophique, amour d'amitié, don des corps. Pourquoi ce regard philosophique ne suffit-il pas pour justifier l'indissolubilité du mariage? Pourquoi l'exigence d'un nouveau regard de sagesse? Pouvez-vous revenir sur toutes les éthiques, la loi naturelle? Bon. C'est un fait que la morale proprement humaine parce qu'il s'agit de la famille, je prends morale humaine dans le sens où on disait morale humaine, morale religieuse et morale chrétienne, toujours ces trois aspects que je crois importants à bien distinguer, pas séparer, pas opposer, mais simplement distinguer. Je crois que lorsqu'il s'agit de la morale purement humaine, qui est du point de vue de l'amitié, on fonde sûrement au point de vue naturel le mariage, c'est bien évident. Le mariage a un fondement d'éthique naturelle, qui est le fondement de la politique. Mais, alors, je ne l'ai pas vu en éthique naturelle, parce qu'ordinairement, on arrête l'éthique naturelle, puis on voit la politique après. Mais je crois qu'il faut bien comprendre que l'amour d'amitié fonde profondément le point de vue du mariage. Est-ce que cet amour d'amitié est-il suffisant pour montrer le point de vue de l'indissolubilité? Ou faut-il le point de vue religieux? Je crois que c'est ça la question. L'amour d'amitié, véritable amour d'amitié, quand il est vraiment très spirituel, et d'une certaine manière indissoluble. Quand on s'aime dans l'amour d'amitié, on s'aime pour toujours. On ne va pas dire je t'aime pour un mois, puis après on verra un autre. On va avoir une amitié comme ça, ça, vous voyez, c'est le contrat. Le contrat, c'est pour tant d'heures de travail, c'est pour tant de temps. Ça, c'est un contrat, parce qu'au niveau de la justice, au niveau des œuvres, au niveau de la réalisation, tandis que l'amitié touche la personne, et donc dès qu'on touche la personne, on touche quelque chose qui n'est plus lié, limité dans le temps. Étant donné que l'amour d'amitié dans le mariage est lié au corps, c'est une très grande différence de l'amour d'amitié en dehors du mariage. L'amour d'amitié est lié au corps, donc lié à la sensibilité, lié aux passions. Nous savons combien c'est difficile que les passions, l'instinct, la sensibilité soient vraiment assumées par un amour spirituel. C'est ce qui explique comment, quand nous regardons dans l'histoire des religions, quand nous regardons l'histoire de l'humanité, comme on voit combien le mariage dans ce qu'il a de plus limpide, de plus profond, est souvent très mal vécu. C'est un fait. On voit même ça dans l'Écriture, puisque à cause du péché, on a permis de fait des séparations. C'est pour ça que je crois qu'en toute rigueur, en tant que théologien, on dirait si le péché originel n'était pas présent. Quand il s'agissait d'Adam et Ève, c'était simple, le mariage était indissoluble. Historiquement parlant. Donc, quand on a un regard de théologien, on voit les conséquences du péché originel. Les conséquences du péché originel sont justement le point de vue de la concupiscence qui fait que c'est pas commode de maintenir le mariage dans ce qu'il a de plus rigoureux. et de plus profond. Alors on dirait, à cause des conséquences du péché originel, on voit très bien qu'il faut le sacrement. Et c'est vrai. Je ne peux pas dire ça au point de vue philosophique. Je le dis au point de vue théologique. Au point de vue théologique, c'est très net. Et c'est assez vite dit. Parce que c'est vrai que les conséquences du péché originel portent particulièrement vis-à-vis de ce point de vue de la concupiscence de la chair et du sang, et qu'on sait le poids de cette concupiscence. On sait que notre sensibilité de 18 ans n'est pas la même que celle de 45 ans ou de celle de 70 ans. Et ce que me disait une fois quelqu'un, très sérieusement, c'est quelqu'un, un ménage très, 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 très bien, qui disait, dans le temps, on mourait beaucoup plus vite. Maintenant, on meurt beaucoup moins vite, hein, les gens. Alors, vous voyez l'indissolubilité du mariage. Hein. Et c'est vrai, ça joue que ça dure plus longtemps. C'est comme pour les vœux de religion. Ça dure plus longtemps qu'avant. Avant, durait moins longtemps. La médecine moderne permet que 80 ans, ce n'est plus un exploit. Donc c'est quelque chose qui devient quelque chose de presque normal. Aujourd'hui, on en rencontre de plus en plus, n'est-ce pas ? Et l'humanité, à ce point de vue-là, s'appesantit. C'est sûr, parce qu'il y a de plus en plus de vieux éléphants qui demeurent, et qui demeurent longuement. Alors, c'est sûr qu'au point de vue théologique, c'est net. Au point de vue philosophique, pouvons-nous, et ça c'est un problème intéressant, pouvons-nous, par le point de vue de la simple amour d'amitié, dire indissolubilité du mariage ? Je crois qu'on peut le dire, étant donné que l'amitié porte sur la personne. Et l'indissolubilité n'est pas au niveau des corps, mais au niveau de l'amour d'amitié. Surtout quand cet amour d'amitié engage quelque chose de commun, voyez, qui est les enfants et l'éducation des enfants et l'éducation des petits-enfants. Tout ça fait partie de l'œuvre commune. Et donc on ne peut pas avoir une œuvre dispersée. Mais on reconnaît en même temps ce que le philosophe dit, combien c'est rare la véritable amitié. Et donc immédiatement en affirmant la chose, on affirme combien c'est rare la véritable amitié. Et combien c'est rare le peu d'amis qui restent vraiment fidèles dans l'ordre de l'amitié. Parce que devant des héritages, devant des discussions, des incompréhensions politiques, les amitiés se divisent, se séparent. Et à l'intérieur du ménage, à l'intérieur d'un foyer, on voit la même chose. Alors, l'indissolubilité prend évidemment quelque chose de beaucoup plus profond quand je suis du point de vue d'une éthique religieuse. Parce qu'il y a un approfondissement du côté de la personne humaine que je vois dans sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Et je vois par le fait même une profondeur de la personne humaine beaucoup plus grande dès que je suis en présence d'une éthique religieuse. Et cette éthique religieuse va pouvoir par le fait même mieux me faire comprendre que si on se lie ensemble dans l'amitié pour un amour, et un amour dont le fruit sera la procréation, et que la procréation engage Dieu, alors ça donne à l'indissolubilité une valeur beaucoup plus grande. Alors ici ce n'est plus le point de vue, vous voyez, c'est là la très grosse différence, ce n'est plus le point de vue de l'esprit, c'est le point de vue, au contraire, de la procréation. Je précise, pour que vous voyez bien ça, parce que c'est peut-être deux choses sur lesquelles on devrait réfléchir, étant donné que c'est des problèmes qui se posent tout le temps aujourd'hui. Et c'est des problèmes qui reviennent aujourd'hui. Parce que quand vous parlez des jeunes et que vous parlez d'indissolubilité du mariage, vous dites « Oh, vous êtes chrétien ». Pas du tout. Quand vous prenez sérieusement la vie, non, je dis ça en tant qu'homme. Et au point de vue purement amitié. Alors, à ce moment-là, il commence à réfléchir. Parce que si vous dites c'est l'Église, très vite c'est terminé. Très très vite terminé. Tandis que si vous dites que c'est au point de vue humain, alors à ce moment-là, il commence à réfléchir. Alors je crois, vous voyez, je dis je crois, parce qu'au fond, il faudrait beaucoup réfléchir là-dessus. Et c'est pas si commun que ça. Donc, je dirais l'amour d'amitié. L'amour d'amitié est indissoluble parce qu'il porte sur la personne. Et que la personne humaine est un absolu. Au-delà du temps. Donc, si vraiment dans l'amour d'amitié il y a une réciprocité, toute amitié, comme amitié, est indissoluble. Je ne peux pas briser une amitié. Au nom de quoi pouvez-vous briser une amitié? C'est très très fort. Et vous savez très bien, des gens qui, en raison, je dirais, d'opinion, parce qu'ils font une œuvre commune ensemble, et en raison qu'à un moment donné, ils ne sont pas d'accord par rapport à cette œuvre, et qui à cause de ça brise l'amitié, la réaction spontanée que vous avez, ça prouve qu'au fond, il n'y a pas d'amitié. Des exemples très précis, on a tous des exemples très précis dans ce domaine-là. Vous voyez, dans tout ordre d'amitié, on fait une œuvre commune. On fait une œuvre commune. Une œuvre commune, n'importe quelle œuvre, une œuvre commune. On établit une école, on fait une œuvre commune. On fait. Alors, si, en raison de cette œuvre, subitement le développement de cette œuvre implique des opinions politiques vis-à-vis de cette œuvre. On a des opinions différentes. On a des opinions différentes. Si on s'aime vraiment, on respecte ces amitiés, ces opinions différentes, mais évidemment, il y a un choix. Très bien, si vous vous disiez très bien, c'est vous qui avez la responsabilité, très bien, c'est ma vie. Si à cause de la diversité des opinions par rapport à l'œuvre, par rapport au développement de l'œuvre, par rapport à la croissance de l'œuvre. Si en raison même de la diversité des opinions par rapport à la croissance de l'œuvre, on se quitte, on dit notre amitié est terminée, ça prouve que l'amitié était mesurée par l'œuvre. Et donc ce n'est pas une véritable amitié. Une amitié n'est pas mesurée par l'œuvre. Une amitié, elle regarde une personne. Elle regarde des personnes. Et donc, là, il y a quelque chose d'absolu. L'œuvre peut disparaître, l'amitié peut demeurer. Et l'amitié même doit demeurer. C'est pour ça qu'avoir des opinions différentes par rapport au développement de l'œuvre, ça n'a rien à voir avec l'amitié. Ça n'a rien à voir. Ça a une dépendance. Mais ça ne touche pas. Le jour où vous considérez que parce que vous avez des opinions différentes par rapport à l'œuvre, que l'amitié est brisée, ça prouve que l'amitié n'existe pas. Du moins, elle existait, mais elle n'existait pas, une véritable amitié au sens fort. Donc, toute amitié, parce qu'elle touche à une personne, elle touche quelque chose d'indivisible. Elle a plus une unité. Idem valet. Cette fameuse affirmation de saint Thomas, à la suite d'Aristote, c'est Aristote qui dit ça. Il le dit en grec. Idem valet, hein, le même vouloir. On est lié. Dans tout mariage, il doit y avoir un amour d'amitié entre l'époux et l'épouse. Alors, je dirais, entre l'époux et l'épouse, il y a un amour d'amitié. Ouf, ou non cet amour d'amitié, le mariage est indissoluble. Oui.
Est-ce que cet amour d'amitié est exclusif?
C'est autre chose. Poser cette question après. Je parle maintenant de l'indissolubilité entre les deux. Hein. C'est deux choses différentes. Il y a une fidélité entre eux et puis alors, il y a donc l'indissolubilité puisque c'est, on est parti de là. Vous voyez, vous avez une autre idée. Moi, je suis, c'est le papier qui m'a guidé. La fidélité entre l'époux et l'épouse, indissolubilité. C'est la fidélité entre les deux. Au nom de cette amitié. Alors je dirais que c'est la première chose, c'est donc l'esprit. La personne humaine est absolue parce que c'est un esprit. C'est à cause de ça que c'est absolu. Je parle maintenant en éthique religieuse. en éthique religieuse, je vois que la personne humaine est rattachée directement à Dieu, au Créateur, parce que l'âme spirituelle est créée par Dieu. Donc ça donne un poids nouveau à la personne humaine. Et si j'ai sa confiance et que je l'aime, je sais qu'il y a quelque chose de plus et de plus profond. C'est évident que la personne humaine, je peux la découvrir parfaitement, que quand je découvre l'âme spirituelle créée directement par Dieu. Mais dans l'éthique religieuse, je vois aussi que la procréation implique un concours de Dieu. Il y a une alliance avec Dieu. Je peux dire ça en éthique religieuse. Pas en éthique humaine. En éthique religieuse, je peux dire que la procréation implique nécessairement une alliance avec Dieu, puisque c'est Dieu qui doit créer l'âme spirituelle. Les époux s'unissent en vue d'avoir en s'aimant et avec la possibilité d'avoir des enfants, donc le point de vue de la fécondité. Et cette fécondité a ceci de particulier, c'est qu'elle est liée au concours de Dieu. Donc, il y a un nouveau motif de l'indissolubilité du mariage au niveau éthique religieux, c'est que je peux concevoir la procréation comme impliquant une coopération de Dieu. Il vient de confirmer. La raison première, c'est l'esprit. La raison seconde, c'est l'alliance avec Dieu. C'est pas la question de l'infini.
Non,
je ne définis pas l'absolu par l'infini.
Donc on voit qu'elle a un esprit qui implique une certaine capacité à.
Oui, mais ça, c'est une importance. Qu'elle devienne. Vous êtes un absolu. Je regrette que c'est comme ça. Vous êtes un absolu, mais vous pouvez croître.
C'est ça. Mais en même temps, il y a quand même quelque chose de relatif.
C'est ça. Oui, vous pouvez croître. Vous êtes un absolu du fait même qu'il y a en vous l'esprit.
Est-ce qu'on ne pourrait pas définir un peu plus cet aspect d'absolu?
Comment?
Je ne sais pas. Parce qu'en même temps,
l'absolu dans l'être,
il n'y a aucun bien qui s'impose de manière nécessaire.
Ah, mais vous choisissez.
Voilà, c'est pour ça.
Ah oui, mais ça n'a pas d'importance. C'est pas du tout plus attention. La confusion, vous voyez, la connaissance et la réalité. Je découvre une personne et je la découvre comme un absolu. C'est pas parce que je la découvre qu'elle n'est pas un absolu. Un principe, je le découvre, mais il faut le découvrir. Et un principe pas quelque chose d'absolu. Quelque chose de nécessaire. L'absolu, c'est nécessaire, c'est quelque chose qui s'impose dans son autonomie propre d'esprit.
Tu veux dire, ce n'est qu'au niveau de la pensée, il n'y a aucun bien qui s'impose par lui-même, comme devant être choisi nécessairement.
C'est sûr, ça c'est évident, mais ça c'est un autre problème, c'est la question de savoir si cette personne s'impose à moi directement ou si je la choisis. C'est pas parce que je choisis quelqu'un et librement que c'est pas un absolu. Parce que alors à ce moment-là, c'est vous qui vous mettez la mesure du bien que vous choisissez. Le bien que vous choisissez s'impose à vous comme un absolu. Et vous le choisissez librement. Vous êtes capable de choisir librement un bien qui s'impose à vous comme un absolu. Parce que de fait, vous ne saisissez pas la personne humaine directement, immédiatement, vous la saisissez à travers un tas de circonstances particulières. Parce que la personne humaine est voilée. L'absolu de la personne humaine est voilée. Et quand vous découvrez la personne humaine, vous la découvrez comme un absolu.
En même temps, quand on regarde la sagesse, elle apparaît quand même comme relative par rapport à Dieu.
Non, elle continue d'apparaître comme un absolu. Elle est relative à Dieu, c'est sûr. On peut être relatif à Dieu, mais en même temps absolu. Est-ce que Dieu peut créer quelque chose de nécessaire, l'absolu? Dieu peut créer quelque chose d'absolu qui s'impose à moi nécessairement, comme du nécessaire, et qui est créé par Dieu. Théologiquement, vous direz que l'ange est un absolu. Toute personne est un absolu. C'est le propre de la personne. Oui ?
Est-ce que
C'est propre de la personne. On irait. Je veux dire, c'est propre de la personne qui implique cette espèce d'autonomie dans l'ordre de l'être, et enfin, du fait même qu'il y a cette autonomie dans l'être, ça pose comme la question de quelque chose de nécessaire. Alors, je la choisis librement parce qu'elle se donne à moi. Elle se donne à moi à travers toute une grande partie du lien. Vous n'êtes pas un absolu pour tout le monde. Vous n'êtes pas un absolu pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui vous ont découvert, et alors à ce moment-là, ils trouvent un absolu. Mais il y a beaucoup de personnes qui s'ébraissent. Dans la vie religieuse, on se découvre tous à la lumière de Dieu, on est tous des absolus. C'est pour ça qu'on se respecte. Mais, alors, immédiatement, a priori, on découvre cet absolu, parce qu'on est choisi de Dieu. Mais oui, pas dans la vie religieuse. En dehors de la vie religieuse, il faut se découvrir. Alors, on sait, il y a un a priori, c'est qu'on dit tout homme, oui, c'est une personne absolue, mais on ne le considère pas comme ça. Oui, on le considère comme partie d'une quantité. Bon, alors, les deux, oui.
C'est un absolu à partir de l'autonomie de l'être. Mais comme bien, il y a quand même toujours quelque chose de relatif.
Oui, c'est quand même un bien qui est, c'est évident, c'est pas le bien absolu. Fondamentalement, c'est un bien. Et fondamentalement, c'est un bien. Vous avez traité cette question à propos de la modernité. Savoir dans quelle mesure ce bien reste un bien absolu. Moi, je crois qu'il faut dire ça, bien absolu.
Si la personne se coupe de sa faim, par exemple, un homme qui est
mais oui, elle demeure encore un bien. Alors, vous allez dire, je n'aime que ceux qui sont des saints. Seuls les saints sont des absolus, alors à partir de la sainteté, mettez sur votre dos, je suis un absolu. Quoi ? Ils ont une potentialité, ils ont la virtualité d'être des absolus et des saints. Donc ils le sont dans leur propre substance. Fondamentalement, c'est ça qui est. C'est l'esprit, c'est le propre de l'esprit. C'est le propre de l'esprit, c'est de comprendre, et c'est pour ça que c'est un acte direct de Dieu. C'est au-delà de la gaieté des six. Votre corps n'est pas un absolu, ça c'est vrai. Mais votre âme spirituelle, votre personne qui appelle à votre esprit, bien ça c'est un certain absolu.
Donc c'est beaucoup plus du côté de l'âme spirituelle à comprendre.
Tout à fait, c'est l'âme spirituelle. C'est pour ça que je disais l'esprit. Je prenais l'esprit ici, parce que l'âme spirituelle, on pense tout de suite à Dieu qui crée l'âme spirituelle, alors je mets mieux ici. Ici je mets l'esprit au point de vue philosophique, ici l'âme spirituelle qui donne une profondeur nouvelle, et puis la procréation qui fait appel, vous voyez, au concours de Dieu. Donc il y a deux aspects qui, je crois, permettent de dire l'indissolubilité du mariage, naturellement.
Le mariage implique la vie commune, mais...
C'est ce que j'ai dit.
On peut très bien dire l'amitié demeure,
oui.
Mais
la vie commune, c'est sûr.
Ça
rejoint la question qu'on va y revenir, ça c'est autre chose. C'est une autre question. Parce que vous pouvez très bien dire, venez dans l'amitié, vous pouvez très bien dire, on s'aime beaucoup. Mais actuellement, l'un et l'autre, on est très fatigués, il suffit qu'on se rencontre pour s'engueuler comme tu vois. C'est toujours comme ça que ça se passe dans les amis. Parce que dans les amis, c'est la plus grande joie et c'est le plus grand engueulage. Des choses qu'on ne peut dire qu'à certains amis. Aux autres, on ne peut pas le dire. Dès qu'on se rend compte, c'est immédiatement comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Parce que les racines sont particulièrement développées dès qu'on est en face de quelqu'un qu'on aime bien. Parce qu'on ne supporte rien de la part de l'ami qui ne soit pas exactement ce qu'on désire. L'idée d'une belle idée, en force en soi. Oui. Alors, à certains moments, on peut se considérer qu'il vaut mieux qu'on ne soit pas de l'autre. Sauver la chose spirituelle. Et c'est pour ça que dans certains cas, on sera bien obligé de donner conseil à des gens qui sont mariés en leur disant « Il vaut mieux vous vivre séparément pendant un certain temps pour vous retrouver. » Et là, c'est pour montrer que le bien, c'est de l'ordre de l'amour d'amitié, et ce n'est pas la vie commune. La vie commune est une conséquence de l'amour d'amitié, mais ce n'est pas l'amour d'amitié. Je ne mets pas amour d'amitié égale vie commune, heureusement. Le mariage implique la vie commune, et même dans le mariage, la modalité n'égale pas la vie commune.
Oui, ça l'amour d'amitié est indissoluble, mais est-ce que le mariage...
C'est pour ça que je vais progressivement, vous voulez tout de suite. Je dois progressivement les choses pour saisir mon analyse, hein, pour utiliser vu comme on analyse. On analyse une indissolubilité dans l'ordre de l'amour d'amitié, ce qui est très important. Très important de saisir ça, parce que c'est l'axe. J'ai une question.
Entre l'amour conjugal, il ne faut pas d'une part, donc premièrement, considérer l'amour d'amitié, sa spiritualité, son indissolubilité, mais d'autre part aussi considérer qu'il y a introduction d'un ordre dans les amitiés de l'homme par le point de vue charnel, par l'incarnation, le point de vue donc, de la vie commune, de l'union charnelle, une primauté, et qui impliquera le caractère de la
vie. Oui, mais voyez. Comme la vie commune, pour moi, est quelque chose de relatif. Il y a 36 manières de vivre une vie commune. On a un tout petit peu d'expérience de ce que représentent les divers foyers, on voit qu'il y a 36 manières de vivre une vie commune. Et quand on voit dans la vie religieuse, on voit qu'il y a 100 000 manières de vivre une vie commune. Ça, c'est bien évident. L'absolu demeure la charité fraternelle. Et la vie commune est une incarnation, une réalisation qui est toujours quelque chose de relatif. Et c'est pour ça que je n'ai pas pris la dissolubilité du côté de la vie commune. Je la prends des deux extrêmes, l'amour d'amitié, la procréation.
La dissolubilité, certainement, se fonde par l'amour d'amitié et sur la procréation. Mais est-ce que pour comprendre le mariage, il ne faut pas comprendre une certaine primauté parmi les amitiés?
Ah, sûrement, sûrement, mais c'est à cause de la procréation.
Il provient, c'est du point de vue disant, du point de vue charnel, en général, puisque la procréation n'est pas nécessaire. Enfin, il y a pas...
La procréation ne peut pas être mise entre parenthèses.
Mais je veux dire, elle n'aboutira pas nécessairement.
Non, mais elle ne peut pas être mise entre parenthèses, donc elle est dans l'intention. Et c'est ça qui la caractérise. C'est ça qui la caractérise. Qui donne à cette amitié quelque chose de très particulier, puisqu'il y a cette fécondité, et que cette fécondité, de fait, qui appelle immédiatement à la coopération à l'égard de Dieu. Alors, maintenant, passons à l'autre question. Indissolubilité du mariage, et puis monogamie. Hein, c'est ça que vous voulez. Hein? Alors, pouvons-nous, au point de vue éthique, morale et humaine, éthique religieuse, dire que nécessairement il faut la monogamie? C'est votre question, je crois. C'est bien ça. Vous voyez que si on se place d'un point de vue historique et histoire des religions, c'est très difficile, on ne peut pas le prouver. Alors, c'est pour ça que les gens disent, est-ce que c'est de droit naturel? Alors, n'oubliez jamais que quand on dit c'est de droit naturel, qu'on se place tout de suite du côté d'une vision de sagesse religieuse. Parce que ça, vous voyez, ceux qui sont comme, vous savez, les gens de grande tradition, qui sont des gens tout à fait, alors, confondent constamment l'éthique humaine et le point de vue de la loi naturelle. Toujours vu cette confusion se faite, ce qui, je crois, est grave. L'éthique naturelle n'implique pas la loi naturelle. Elle est fondée sur l'amour d'amitié. L'éthique religieuse fait apparaître la loi naturelle. Parce que la loi naturelle ne peut se fonder que sur une vision de sagesse. C'est dans une vision de sagesse que je peux parler de loi naturelle. Une vision de sagesse qui consiste à voir les choses dans la lumière du Créateur. Donc, c'est une vision de sagesse. Il faut bien noter les deux différences. Si parmi vous, il y en a qui ne voient pas la différence, il faut la voir très nettement. Ça, c'est une chose importante. Parce que je crois qu'on évite des quantités de confusion quand on voit nettement cette différence entre les deux. Et cette distinction, elle est fondée philosophiquement, c'est bien évident. C'est que l'amour d'amitié ne repose pas sur une vision de sagesse. Et l'amour d'amitié fonde une éthique humaine. Et le point de vue de religieux, c'est-à-dire le point de vue dès que je me place dans la perspective du Dieu créateur, alors je suis dans une vision de sagesse. Et à ce moment-là, c'est une éthique religieuse. Bon. Alors, dans une éthique purement humaine, pouvons-nous, au nom, je rejoins ce que vous disiez, au nom d'une amitié d'un type tout à fait particulier, puisque c'est l'amitié entre époux et épouse, dire que, au nom de, donc à ce niveau-là, dire que cette amitié est nécessairement entre l'homme et la femme, et qu'elle ne peut pas s'ouvrir à d'autres. Je peux dire que l'amour d'amitié en dehors du mariage, l'amour d'amitié au plan spirituel, au plan aussi sensible, au plan de la réalisation d'une œuvre commune, l'amour d'amitié n'est pas fermé à la diversité. Vous ne pouvez jamais dire à un ami, tu es mon ami, mais tu n'auras jamais d'autre ami que moi. Il y a des gens qui disent ça. Ça, c'est de la tyrannie. C'est de la tyrannie. Jamais dire ça. Tu es mon ami, c'est bien évident. Je respecte ce que tu veux. Donc, l'amitié n'implique pas que ce soit exclusif. Mais l'amitié demande un petit nombre d'amis pour que l'amitié puisse continuer d'exister comme une amitié. Parce que l'ami réclame justement qu'on soit suffisamment disponible à lui. Donc ça exige un petit nombre. C'est une question classique qui a été traitée dans une question classique qui est intéressante. Faut-il mieux un ami ou plusieurs amis? Faut-il mieux un ami parfait ou plusieurs amis? La tendance est de dire un seul ami parfait vaut mieux qu'une multiplicité d'amis moins bons. Autrement dit, c'est le problème de la qualité de la quantité. Et nous sommes tous, quand on est bien nés, pour la qualité. Laisse la quantité pour les autres, n'est-ce pas? Mais enfin, quand on est bien né, on est tous pour la qualité. Donc on est tous à dire, il vaut mieux un ami très très fort que beaucoup d'amis. Juste l'inverse des relations mondaines. Les relations mondaines, c'est juste la multiplicité, la plus grande. J'ai de relations, mieux ça vaut, plus... Mais ces relations perdent du reste en intensité du fait même qu'elles sont plus nombreuses. Ça, c'est évident. Eh bien, l'amitié, elle, fait juste l'inverse. C'est une relation personnelle qui tend vers l'unité. Donc, déjà, l'amitié, ça, c'est, je crois, très important. Ça tend vers l'unité. Sans être exclusif, ça tend vers l'unité. Puis, j'allais plus loin en disant, étant donné le don des corps. Vous voyez que tout de suite, par le point de vue du don des corps, il y a quelque chose d'individuel qui n'est plus uniquement personnel. Si je fais la distinction entre personne et individu. L'individu est quelque chose de beaucoup plus exclusif. La sensibilité à quelque chose, la passion est exclusive. Un ami dit à son ami, je suis ton ami et je serai ton ami de façon parfaite, mais pas d'autre ami. On dit ça au nom de quoi? Pas au nom de l'esprit. On dit ça au nom de la passion. C'est la passion qui nous fait dire ça. C'est l'élément passionnel qui intervient dans le point de vue de l'amour d'amitié qui tend à l'exclusivité. Qui tend donc à posséder l'autre. D'une certaine manière, tout en disant et en disant, mais non, je ne veux pas du tout te posséder, tu peux te développer tout à fait comme tu veux, mais quand même. Hein. Alors, c'est l'élément passionné, l'élément sensible. L'élément passionnel, l'élément sensible, intervenant dans le point de vue de l'amour d'amitié des époux, tend nécessairement à intensifier l'unité. Et à mettre, d'une certaine manière, un élément d'exclusif. à cause de ça. Pouvons-nous aller plus loin que de dire une tendance au point de vue naturel ? Je crois qu'on peut le dire dans la mesure où justement on comprend qu'il y a un don qui est fait à une personne et qui par le fait même ne peut pas être fait à plusieurs. Il ne serait fait à plusieurs que successivement, et successivement, ça détruirait l'intensité de cet amour. De sorte que si déjà l'amour d'amitié tend vers l'unité, l'amour de l'époux et de l'épouse tend vers une unité qui serait exclusive. Alors, pouvons-nous dire que c'est un droit ? Nous pouvons dire que, selon notre prudence humaine, selon notre regard, je parle en éthique purement humaine, on peut comprendre que c'est sûrement plus parfait. Que c'est une question de perfection et une question qualitative. Ça, je crois que nous pouvons le dire. Pouvons-nous dire que nécessairement tout le reste n'est plus moral ? Hein ? Parce que c'est la question. Ce serait contre nature. Est-ce que nous pouvons dire que c'est contre nature ou simplement nous dire que c'est moins parfait ? Je pose la question.
On
ne peut pas dire de façon absolue la favorite. Quoi ? Non, mais c'est ça la question, c'est là la chose tellement délicate, c'est que dans l'amour d'amitié, vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris exprès d'abord le problème de l'amour d'amitié. Vous ne pouvez pas dire dans l'amour de l'amour d'amitié que nécessairement il y a un ami auquel tous les autres amitiés sont en référence. Je ne peux pas dire ça. Non, même la finalité. Parce que c'est là où, justement, l'absolu dont vous disiez tout à l'heure, c'est bien un absolu, c'est vraiment un absolu, mais ce n'est pas l'absolu au sens unique.
Ce qui est important, c'est le don, parce que le fait que l'Église reconnaisse que quand l'époux meurt, on puisse soit reprendre une femme, soit tous les deux entrer en religion. Enfin, si je veux dire,
bah, quand tu meurs, ça veut donc dire qu'on n'est plus à soi.
Non, c'est très vrai ça.
Parce qu'on a perdu son.
Oui, c'est sûrement ce point de vue du corps avec son individuation. Je crois qu'il s'agit d'amour d'amitié au plan où l'esprit domine. Là, on sent très bien qu'on ne peut pas exclure, dire que je n'avais qu'un seul ami. Non. On ne peut pas exclure. Et pourtant, on se donne spirituellement. Mais il n'y a pas l'incarnation du don. L'incarnation du don fait sûrement un point de vue beaucoup plus individuel, un point de vue beaucoup plus. Si vous voulez, de l'individualité beaucoup plus, qui met une exclusion. Ça, je crois. Mais c'est de ce côté-là qu'il faut creuser. Sûrement. C'est ce caractère particulier, ce que vous soulignez, ce caractère particulier de l'amour d'amitié dans le mariage, où il y a un don corporel. Alors, ce don corporel fait que nécessairement, il y a quelque chose de beaucoup plus individuel, qui met une exclusion. Un individu exclut un autre. Il est nécessairement distinct, alors que l'esprit n'exclut pas.
Seulement individuel, on n'est plus à nous.
On est relatif à l'autre. Oui, on est relatif à l'autre, mais c'est à cause de l'individuation. Parce que dans l'amour d'amitié ordinaire, on est aussi relatif, mais pourtant on reste ouvert à cause de cette capacité infinie qu'il y a dans l'amour humain. Oui.
Que le don des corps, il y a aussi, en fait, je pense que premièrement, un engagement à la vie. C'est un don de la vie qui implique le don des corps. Mais
Un don d'avis dans le sens, je vois ce que vous dites, l'intention de Maria. Et oui, mais est-ce que c'est pas parce qu'elle a le bon corps? C'est à cause de ça. Je crois autrement, au niveau proprement de l'amour d'amitié, de l'esprit. Je crois pas quelque chose de plus. Je crois pas. Moi, je ne dirais pas qu'au point de vue de l'esprit, que l'amour d'amitié entre les époux est une amitié plus parfaite que l'amitié qui peut exister entre les deux. Or nous cherchons à comprendre, vous voyez, on cherche à comprendre si l'amour d'amitié réalisé dans le mariage, au niveau de la compréhension qu'on peut en avoir au point de vue philosophique, au point de vue humain et au point de vue religieux, implique nécessairement cet engagement, qui est une conséquence.
Est-ce qu'on n'est pas incité à chercher dans le sens d'une certaine unicité dans l'amour spirituel par le fait qu'en Dieu le Père a un fils unique?
Mais ça peut être une incitation à chercher.
Oui, oui. Alors, ça devient compliqué. Alors, ça va tomber dans l'image de la famille et ça va plus non plus. C'est très difficile. Je crois que c'est important de saisir ça pour voir jusqu'où nous pouvons aller quand on est en face de personnes qui n'ont pas la même foi que nous, qui n'ont pas les mêmes conceptions que nous, jusqu'où on peut aller uniquement au point de vue du regard sur l'homme. Donc, éthique humaine ou éthique religieuse. L'éthique religieuse, on peut toujours la pousser aussi, parce que pratiquement, normalement, un homme doit découvrir qu'il est dépendant du Créateur. Oui. Un amour spirituel? Il n'y en a plus? Il ne peut plus en avoir. Non, il n'y a plus de jalousie. Pourtant, je le ressens. Non, il n'y en a plus, il n'y en a plus.
Le propre de l'esprit implique un don à l'autre, mais ce don à l'autre n'est pas
exclusif.
Ah, mais la jalousie est toujours exclusive. C'est propre de la jalousie. Ah, c'est propre de la jalousie. L'amour spirituel comme tel ne l'implique pas. Ça, c'est l'esprit. Ça, c'est du côté passionnel, et alors là, je suis tout à fait d'accord. La jalousie de l'époux et la jalousie de l'épouse provient de ce don. Et c'est là où, à cause de ça, il y a quelque chose de particulier. Que vous disiez don de la vie, je suis d'accord, parce que la vie, elle est liée à mon corps. Hein. Et c'est dans mon corps que la vie devient substantielle. Parce que dans mon esprit, c'est la vie végétative qui a quelque chose de substantiel. Donc le don de la vie est lié au don du corps, ça c'est sûr. Et par le corps, c'est la sensibilité, par le corps, c'est la passion, par le corps, c'est l'instinct. Et là,
qui est évidemment exclusif des autres. Sans exclusivité, on ne pourrait quand même pas parler de l'ordre. Il convient qu'il y ait un ordre entre les amitiés.
Est-ce qu'il y a un ordre?
De la même manière qu'il y a un ordre dans la charité.
Il y a deux ordres dans la charité, donc je ne vais pas le voir.
Pardon.
Il y a deux ordres dans la charité.
Vous devez aider à toi ce qui sont les plus amis et ce qui sont les plus proches.
C'est ça.
Vous voyez, donc il y a deux ordres. Ce qui montre bien que l'ordre de la charité, dans la sagesse, il n'est pas si commun que ça. Parce qu'il se ramène à l'ordre de la très sainte Trinité. Et en dehors de la très sainte Trinité, c'est complexe. Il n'y a pas un ordre de l'époque.
Pourquoi pas l'époque? Mais dans la vie, c'est une certaine
manière.
Ce serait une stabilité particulière, cette amitié.
Non, on parle des amitiés et pas de mariage. On parle des diverses amitiés.
Dans les diverses amitiés, y a-t-il un ordre?
D'autres amitiés pourraient être beaucoup plus spirituelles, mais ne pas appliquer cette même stabilité.
Oui, non, mais c'est pas la question posée, c'est la question de savoir si dans la diversité, parce que dans l'ordre d'amitié, on tend vers l'unité, mais on n'exclut pas la diversité. Est-ce que cette diversité implique un ordre? C'est là la question posée.
Mais cet ordre serait spécifié par le point de vue de Charnay. Oui,
ah, c'est ça que vous vouliez dire. Oui. On ne peut pas revenir sur cette question-là, et c'est très important parce que c'est des questions concrètes que les gens vous posent. Vous dites, par exemple, un foyer, ils sont très unis, mais il y a au fond une amitié spirituelle très profonde avec un tiers. Est-ce que cette amitié avec un tiers, qui est une amitié spirituelle, doit-elle passer nécessairement,
je vais dire être relative à ça, ça vous demande, mais est-ce qu'il peut, y avoir un dilemme justement entre les deux, une nécessité de séparation pour des raisons diverses? Est-ce qu'on ne peut pas être amené à choisir au point de vue de l'amitié effective en tout cas, de l'amitié effective?
Ah, l'amitié effective, donc, l'amitié effective c'est la vie commune.
Et donc être amené à se séparer de l'ami pour rester avec lui. À rompre les relations avec la vie pour rester avec lui.
Et pouvons-nous dire qu'il y a nécessairement un ordre? Donc, à ce point de vue-là, je n'oserais pas le dire de façon absolue. Je ne crois pas. Je crois que l'esprit a d'autres exigences, et ces autres exigences, alors on peut, au point de vue prudentiel, c'est le cas classique, habituel, vous faites comme vous voulez. Une attention très grande pour participer à la musique.